Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Joueur. Aujourd'hui, troisième épisode de notre série sur la respiration. Cette fois-ci, on va s'intéresser à sans doute le meilleur moment pour une footballeuse ou un footballeur, le match. Comment on peut devenir plus précis, focaliser pendant l'action et ne pas se laisser déborder par les faits de jeu et les événements. Pour voir tout ça, je suis toujours avec Yvan, coach en respiration. Salut Yvan, comment tu vas ? La forme ?
Très bien, merci, et toi ?
Oui, très bien, super. Content de faire ce nouvel épisode de notre série hein, sur la respiration. Bah écoute Yvan, sans attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais t'exposer hein, comme d'habitude hein, ce qui est fait, en tout cas au niveau des footballeurs et des footballeuses, pour tenter de rester un maximum focalisé et éviter de se laisser perturber par les faits de jeu aussi bien positifs que négatifs. Dans la globalité, les joueurs vont utiliser la préparation mentale de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. En fait, on va recommander aux footballeurs d'utiliser un des leviers de la préparation mentale qui est le discours interne. Alors, le discours interne, en fait, ça va être les pensées et les paroles que chaque footballeur va avoir envers lui-même. Alors, c'est un discours qui est vraiment très important parce qu'il permet vraiment de penser de manière positive. Le but, c'est vraiment de balayer tout élément de langage négatif et d'être vraiment que dans un discours interne, comme son nom l'indique, hein, des pensées positif pour se permettre vraiment bah, de, en tout cas, d'être beaucoup plus performant et d'éviter d'être parasité par des mauvaises pensées qui peuvent forcément nuire à ton match et te faire sortir hein, clairement de ton match. Donc ça, c'est un des premiers leviers utilisés. Le second, ça va être le discours interne motivationnel. Alors le discours interne motivationnel, comme son nom l'indique, hein, ça va être des petites phrases que les joueurs vont se dire à eux-mêmes à caractère vraiment de motivation. Donc le but, ça va être d'être dans, typiquement ça donne « je peux le faire, je vais y arriver, je vais gagner, je vais marquer ». Et c'est encore une fois un discours super important parce que ça permet évidemment de rester positif, de s'auto-motiver et en plus c'est contagieux parce que souvent bah, ce discours après se transmet aussi à tous ses coéquipiers et ça devient aussi une forme de communion pour rester vraiment dans un élan positif et se motiver afin évidemment bah, d'atteindre le meilleur résultat possible. Comme on dit, hein, c'est toujours beaucoup plus simple de se motiver quand on est plusieurs. Un autre élément aussi que je peux évoquer, Yvan, c'est tout simplement hein, rester focalisé, focaliser son attention plus précisément sur des choses concrètes pour bien rester dans le moment présent. C'est super important aussi et les joueurs aussi, tentent en tout cas au maximum de rester en moment présent. Car typiquement, hein, quand on vient de rater un contrôle, une action, ou qu'on s'énerve contre un coéquipier ou contre un adversaire, c'est des choses qu'on peut ressasser, d'accord, pendant plusieurs secondes, pendant plusieurs minutes. Et à l'échelle d'un match, les secondes, les minutes, c'est énorme. Et tout se joue justement sur ça, sur ces petits détails-là. Donc il faut éviter de ressasser pour rester au moment présent. Et ça concerne d'ailleurs aussi les événements de jeu positifs aussi. Hein. On vient de marquer un but, on est un peu euphorique, on sort très vite, on peut très vite sortir de son match. Et encore une fois, les secondes et les minutes à cette échelle-là, tout peut aller très vite. Donc voilà, donc il faut vraiment tâcher de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser en tant que footballeur, à savoir le présent. Donc vraiment balayer tout ce qui a été fait avant, ne plus y penser. Ce qui compte, c'est le moment présent et ce qui va venir. Donc voilà, quelques leviers hein, qui sont utilisés, hein, Yvan, par les footballeurs hein, dans ce cas, dans ces cas de figure précis. Donc là, encore une fois, on a l'habitude maintenant. Comment on peut bien utiliser la respiration pour éviter de sortir de son match et par la même occasion devenir plus précis?
Alors, y a plein de variables évidemment là-dessus. Il y a plein de stratégies différentes qui impliqueraient en plus des motifs respiratoires différents. Moi, mon approche, elle est assez différente de la préparation mentale. Pourquoi ? Parce que autant la préparation mentale, je trouve que c'est un outil qui est excellent en amont, autant ça a deux effets, on va dire, problématiques pour moi dans l'action. Le premier, c'est on a parlé de l'état de flow
oui, dans l'épisode bien sûr. Précédent.
L'état de flow passe par la capacité à avoir le silence mental, donc ne pas avoir de pensée. Et le travail de préparation mentale, c'est exactement l'inverse. C'est justement, comme tu disais, avoir une voix dans la tête positive, etc., etc. Mais ça reste un flux de pensée. Donc,
c'est vrai.
Moi, dans mon approche, je vais plutôt avoir tendance, une fois que le match a commencé, à ne pas utiliser ce genre de choses, parce que à partir du moment où il y a une voix dans la tête, elle peut être très positive, mais c'est elle aussi qui peut être entraînée à être très présente pour trop commenter, en fait. Que ce soit en bien ou en mal, mais d'accord. Trop commenter. Et ça, c'est toujours quelque chose qui va gêner. Je vais expliquer pourquoi ensuite. Le deuxième problème avec le fait de toujours parler et de toujours se projeter, c'est une phrase de Mike Tyson que j'aime beaucoup, c'est « tout le monde a un plan jusqu'à prendre la première droite ».
Et ouais.
on est vraiment là-dessus où c'est bien de se préparer à quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe quand ça se passe pas du tout comme prévu? Donc moi je suis vraiment sur une approche beaucoup plus dans le moment et qui implique tout le chaos qu'il y a naturellement dans le jeu.
Ouais,
donc pourquoi j'ai aussi cette approche-là? Le problème du mental. Et qui va avoir une influence directe sur la respiration et par le corps, c'est qu'il est capable de contrôler la respiration dans une certaine mesure. Et une respiration qui n'est pas sous contrôle ou mal contrôlée va avoir un impact biomécanique immédiat sur l'ensemble des chaînes musculaires. Ce qui veut dire typiquement que, je dis n'importe quoi, le coup franc. Quelqu'un qui tire en coup franc à l'entraînement, peut-être qu'il va en mettre 9 sur 10. Le jour du match, bizarrement, ça cadre une fois peut-être sur 3 et ça rentre encore moins. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un qui arrive aussi bien à l'entraînement n'y arrive pas en match ? La raison, c'est le stress en règle générale. Mais le stress, c'est quoi ? C'est le fait en fait d'analyser la situation et justement cette petite voix dans la tête, consciente ou pas consciente, qui va considérer que le corps doit se défendre de quelque chose, d'une situation qui est extrêmement stressante, hein, qui génère beaucoup d'excitation, qui génère beaucoup d'émotions. Donc le corps va se défendre, la respiration va s'accélérer, et l'impact de ça, ça va être que les mouvements vont être moins précis. Et ce n'est pas quelque chose de mental, c'est vraiment quelque chose de très physique, de très biomécanique. Si votre mental prend le contrôle de la respiration, vous fait faire des apnées, vous fait respirer trop vite, vous fait respirer trop haut, vous allez perdre en fait votre coordination, pas en entier évidemment, vous allez perdre une grosse partie de votre coordination. Et ça, c'est quelque chose qui explique très facilement le déchet qu'on peut avoir en situation, on va dire, de stress et en situation d'entraînement. Mais j'aime beaucoup l'exemple du coup franc parce que autant on pourrait dire dans la course, il y a un milliard d'éléments différents qui vont entrer en jeu, très physique, autant le coup franc que ce soit entraînement ou en match, elle est où la différence?
Ah oui, clairement, part, ouais, par exemple.
À part l'interprétation que la petite voix fait dans votre tête et donc l'effet qu'elle va avoir sur le reste du corps. Donc, comment on va utiliser la respiration dans ces cas-là? Ben, en fait, on va faire du bruit avec la respiration, pas un bruit nécessairement physique, mais un bruit mental. On a parlé donc de la respiration d'ancrage dans l'épisode précédent. Cette respiration d'ancrage, quand vous l'utilisez, au bout d'un moment, vous n'allez même plus la faire. Je le rappelle, hein, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, c'est le fait de, comme si vous crachiez une cerise et vous faisiez quelque chose comme ça. Au début, ouais. Ça fait beaucoup. Mais à la fin, vous n'allez plus le faire aussi fort, vous n'allez même presque plus le faire, mais par contre, ce rythme va être dans votre tête. Et je vous essayez de le faire, essayez de faire ce bruit-là, essayez de penser en même temps. Et en fait, dans ce cas, la respiration va prendre la place de cette petite voix. Du coup, il n'y aura pas de commentaire et votre corps sera à l'état neutre. Et l'état neutre, c'est celui où vous êtes à peu près à l'entraînement. Donc, c'est là où vous êtes performant. Donc, un premier truc pour gérer le trop-plein d'émotions ou le trop-plein d'excitation, parce que comme tu disais, hein, c'est aussi bien en positif qu'en négatif, c'est de mettre ce bruit dans la tête par la respiration d'ancrage. Après, il y a un deuxième point justement où l'émotion est déjà arrivée. Donc typiquement, vous venez de prendre un but, vous venez de marquer un but, on vient de vous faire un tacle par derrière, enfin, hein, des genres de faits de jeu où boum, ça fait monter l'émotion très vite et compliqué à gérer. Ouais. Là, c'est la même chose. On pense souvent que c'est que la tête. C'est je suis énervé, je suis excité, donc je suis moins bon dans les 2-3 minutes qui viennent. Non, c'est aussi le corps. Parce que votre mental a effet sur votre biomécanique. Donc, en fait, l'objectif, quand vous venez d'avoir un gros pic comme ça émotionnel, c'est de venir remettre à zéro vos tissus, vos muscles, vos fascias, tout ce qui crée en fait votre forme de corps, votre structure de corps et qui permet votre mobilité. Et pour ça, on va faire une respiration assez particulière qui est la respiration explosive. On en a peut-être déjà parlé, je ne me souviens plus.
On avait parlé un petit peu, ouais, complètement.
Ouais, c'est une respiration qui est un petit peu comme si vous toussiez. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui fait comme ça. Et quand vous respirez comme ça, en contractant le transverse et le diaphragme, vous allez venir mettre énormément de mobilité au niveau du tronc, au niveau des jambes, et ça va un petit peu restaurer votre équilibre tissulo-musculaire. Et ça, en fait, ça va vous remettre dans un état neutre qui va vous permettre de repartir directement à l'action. Donc, en fait, vous êtes en respiration d'ancrage la plupart du temps, d'accord ? Plus ou moins vite en fonction de l'effort dont vous avez besoin de faire. Il y a un pic émotionnel, vous mettez en place une respiration explosive pour remettre le corps à zéro et vous reprenez votre respiration d'ancrage. Et de cette manière, vous êtes constamment en train de restaurer à la fois votre corps et de tenir votre mental. Donc ça, d'un point de vue gestion émotionnelle, pour la respiration, c'est quelque chose qui est hyper important en match. Après, il y a un deuxième point qui est aussi assez important avec la respiration et qui va cette fois concerner plus le côté cardiovasculaire.
Ouais.
Ce qui tue le joueur, qui favorise en fait l'apparition d'un mental beaucoup trop bruyant, c'est les changements de rythme. Ça, ouais. Ça, j'apprends rien à personne. C'est beaucoup. Vous pouvez tous courir 10-15 km en footing. Par contre, dès qu'on commence à faire du fractionné, ce qui est le cas dans un match de foot, évidemment, c'est plus difficile de courir autant.
C'est plus compliqué, ouais.
Exactement. Donc, une des raisons pour lesquelles c'est plus compliqué, c'est parce que quand vous faites des changements de rythme, votre cœur accélère brusquement, puis ça s'arrête brusquement, puis ça accélère brusquement, puis ça s'arrête brusquement. Et plus votre corps est fatigué, plus votre mental va prendre de place aussi. Ouais. Je pense que ça, vous l'avez tous expérimenté. Ça commente beaucoup plus en fin de match qu'au départ.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais.
Parce que en fait, l'énergie qui est mise en place par le mental pour aller dans le corps au départ, moins il y en a, plus le mental va se retrouver dans la tête et moins sur l'action physique et plus il va avoir d'importance. Donc en fait, être capable de moins fatiguer et de ne pas avoir ces cassures de rythme va aussi favoriser une forme de lucidité. Et moi, ce que je fais travailler à mes joueurs, en fait, c'est préparer le changement de rythme. Évidemment, il y a des situations où ce n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose de totalement inattendu qui se passe. Mais en général, si vous avez un petit peu d'expérience et que vous lisez le jeu, vous savez que en fonction de ce qui se passe quelque part sur le terrain, ben, dans 3, 4, 5 secondes, vous allez devoir accélérer. C'est pas c'est quelque chose qui est assez intuitif et que vous savez faire si vous jouez un petit peu.
Bien sûr.
L'objectif, en fait, et ça, tu vas me dire peut-être avec ton expérience ou autre, mais est-ce que quand tu sais que tu vas accélérer, tu fais quelque chose de particulier? Et après, moi, je vais te dire ce que j'ai observé chez les joueurs.
Alors, effectivement, quand tu sais que tu vas accélérer, alors, si je me remets un peu dans le contexte, alors tac, je vais accélérer, je suis en action. Comme ça, en fait, d'instinct, je pourrais pas forcément te dire. C'est vrai que moi, j'accélère. Si je suis dans l'action, je vais accélérer. Mais alors, j'imagine, je vais retenir un peu ma respiration au début. Ouais, c'est ça. Je retiens ma respiration. Je vais pour accélérer. En fait, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une sorte de gainage un peu qui se fait, genre de tension. Où tu vas pour préparer. Ouais.
Et en fait, ça, paradoxalement, c'est hyper mauvais. La micro-apnée, c'est ce qui va tuer le sportif et c'est ce qui tue tout le monde dans la vie quotidienne. Par exemple, pour la prochaine fois que tu reçois un mail, est-ce que tu respires?
Ah ouais, bien vu. Ouais.
Il y a un phénomène qu'on appelle l'apnée de l'email, qui fait que dès qu'on sait qu'il y a un email, quand on l'ouvre, au moment où on clique dessus, des études ont montré que les gens, pour la plupart, arrêtent de respirer. Et le problème, c'est que quand tu arrêtes de respirer, tu dis à ton système nerveux qu'il y a un problème et tu le mets en état de stress. Et donc, ça lui demande des efforts. Et quand tu le fais, quand tu projettes ça dans un match où les efforts sont déjà importants et que tu enchaînes des apnées, non seulement tu vas te stresser, mais en plus, ton apnée va avoir tendance à, dans les premiers temps, ralentir ton cœur. D'accord ? Et quand tu vas accélérer, tu vas à la fois avoir stressé ton système et demander à ton cœur d'un coup de passer d'un état, on va dire, plus calme ou plus, en tout cas pas en performance, à un niveau de performance maximal. Okay. Et ça, en fait, peut-être que tu vas cramer 20-30% d'énergie en plus que ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ça.
C'est énorme.
Et donc, quand tu répètes ce genre d'effort, ben en fait, ça te tue. Et ça, c'est vraiment en match peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner. Et essayez-le peut-être sur une mi-temps et comparez avec l'autre sans le faire. Dès que vous savez que vous allez accélérer, la respiration d'ancrage qu'on utilisait tout à l'heure, on va soit l'accélérer ou alors même si vous n'avez pas envie de faire la respiration d'ancrage, accélérez votre respiration quand vous êtes en train de trottiner, quand vous vous préparez à la course, comme si vous étiez en train de courir. Et une fois que vous avez fait votre accélération, surtout, vous n'arrêtez pas de respirer rapidement dès que vous arrêtez de courir. Vous continuez à respirer vite 2, 3, 4 secondes après. Et ça, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup moins cramé à la fin d'un sprint. Vous allez pouvoir répéter les efforts de façon beaucoup plus facile. Et ça va vraiment changer sur la durée parce qu'en foot, ces accélérations-là, elles se font sur la... enfin, ces enchaînements d'accélération se font sur la durée. Vous allez voir que vous allez gagner énormément d'endurance, en fait, sans avoir à spécifiquement le travailler. Et en plus de l'endurance, en faisant ça, vous allez voir qu'aussi la voix dans votre tête va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présente. Parce que l'apnée stresse le cerveau. Quand le cerveau se stresse, cette voix apparaît.
Ok, mais super intéressant, très intéressant. Là, pour le coup, c'est vrai que lorsqu'on est sur un terrain et qu'on accélère, pour nous, ça nous paraît complètement normal finalement d'avoir ce temps-là un peu d'apnée, hein, justement, comme je disais, de gainage. Alors qu'en vrai, ça crame pas mal de nos réserves. Et c'est, en fait, comme tu l'as dit, hein, ça a un effet tout de suite négatif, hein, finalement, sur toute ta performance.
Ouais.
D'accord.
Le gainage, il est nécessaire. C'est normal qu'en fait, on cherche à le faire instinctivement. Mais ton gainage d'apnée, tu peux avoir exactement le même gainage en respirant à vitesse de course. Mm-hmm. Juste faites-le consciemment et vous allez tout de suite sentir la différence sur vos accélérations et l'effet qu'a l'accélération sur vous après.
Ah ben c'est génial parce qu'en réalité, ça te permet d'être moins cramé, donc d'économiser ton énergie. Et forcément, si tu économises ton énergie aussi, tu as moins de chances aussi de sortir de ton match. Plus on se rapproche de la fin du match, tu as aussi moins, tu as plus de chances de rester lucide, on va dire, donc de pas sortir de ton match en fonction des faits de jeu et tout ce qui suit. Donc finalement, tout est lié. Et donc, c'est vraiment des choses à appliquer. Ok, mais c'est super, super intéressant. Donc, Yvan, on rappelle, donc tu nous as parlé de la respiration d'ancrage, si je ne me trompe pas, hein, peux l'appeler comme ça. La respiration explosive aussi. Ouais. On rappelle, hein, c'est le deuxième point. Et le dernier point, finalement, comment on peut l'intituler ? Il n'y a pas forcément de nom, justement, sur ce qu'on vient de développer.
En fait, soit c'est de la respiration d'ancrage, mais que vous allez accélérer à vitesse de course, soit c'est la manière dont vous respirez normalement, mais à vitesse de course.
À vitesse de course. Donc, finalement, faire de l'adaptation. C'est une forme d'adaptation. Ok, mais c'est vraiment très, très, très clair.
Et si j'ai juste le temps,
le dernier point
qu'on a déjà vu dans la partie préparation, mais essayez-le, je vous garantis que les résultats seront là avec un peu de temps. Respirez le plus possible uniquement par le nez dans votre match. Même si c'est que les 10-15 premières minutes, faites-le, vous allez voir que ça va aussi vous permettre de gagner de l'énergie sur la fin du match. Donc avec tous ces éléments-là, sans faire trop de travail de préparation, vous allez voir que vous allez énormément gagner en lucidité et en conservation de l'énergie.
Oui, c'est vrai que tu as beaucoup insisté là-dessus, hein, sur la respiration par le nez. Et comme tu l'as dit, même si c'est que 10 ou 15 minutes par match, ça peut faire la différence. Donc oui, c'est noté. Bah, Yvan, tu avais peut-être quelques derniers conseils à nous donner?
Si ce que je peux rajouter, c'est quelque chose d'un petit peu plus général. Pour moi, c'est très difficile en fait de séparer le mental du corps, parce que
D'accord,
l'un
bien
va
sûr.
toujours avoir une action sur l'autre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le seul processus physiologique que vous avez qui fait le lien entre les deux, c'est la respiration. Et c'est
Bien
pour
sûr.
ça qu'en fait, avoir un travail spécifique sur la respiration, c'est le moyen le plus simple, réellement, de performer aussi bien sur les aspects mentaux que physiques. Donc,
OK.
si je devais résumer un petit peu mon idée autour de ça, si vous voulez être performant en match sur tous les niveaux, regardez votre respiration, ça va avoir un effet.
Ok, c'est vraiment très clair. Des conseils précieux, des exercices à appliquer évidemment. Ça a vraiment des effets positifs sur la performance. C'est déjà la fin de l'épisode. Il faut noter qu'on peut te retrouver, Yvan, sur ton site internet, hein, artdelarespiration.fr. N'hésitez pas à y aller. Il y a vraiment beaucoup de contenu vraiment très riche. Et on peut évidemment consulter Yvan aussi pour une séance, hein, c'est tout à fait possible. Bah écoute, Yvan, merci encore une fois. On se retrouve le mois prochain pour notre quatrième épisode, hein, de la série sur la respiration. On va parler cette fois-ci de récupération. Donc ça va être encore très instructif et super intéressant. D'ici là, continuez à jouer au foot, continuez à vous amuser avec le foot, continuez à kiffer le foot. Prenez soin de vous. À très bientôt.